Voilà, Vincent est parmi, il est en même temps chez lui.
Merci Antoine. Alors, on s'organise. Voilà, c'est bon. Après avoir massacré mon thème comme il l'a fait. Ah ben, me voici de nouveau. Je suis un visiteur fréquent dans cette assemblée depuis bien des années maintenant. Je vous salue au nom de Denise qui n'a pas pu faire le voyage avec moi de l'île de la Réunion cette fois-ci. Parce que dans un travail de pionnier que nous sommes en train de faire, refaire, je dirais, on a passé toute notre vie à faire et refaire des églises. Eh bien, on ne pouvait pas tous les deux être absents pendant 3 semaines, parce que c'est une œuvre nouvelle, c'est comme un bébé, c'est fragile, c'est vulnérable, on a besoin de le protéger. Donc c'est elle qui prêche pour moi, elle a prêché ce matin. Non, elle n'a pas prêché ce matin, on avait un invité. Mais c'est elle qui assure les réunions en semaine et qui... T'as prêché dimanche dernier, qui prêchera dimanche prochain. Et alors, eh bien, les gens apprécient quand c'est Denise, parce qu'elle raconte des histoires sur moi. Elle prend sa revanche. Alors, voilà, c'est pour ça qu'elle n'est pas là. Mais juste avant d'attaquer ce matin, j'aimerais juste vous signaler que j'ai été invité par la CLC de Lille de venir faire en tant qu'auteur une dédicace, témoignage, jeudi prochain. Donc effectivement, j'ai écrit 3 livres, j'ai pas d'exemplaires avec moi, par contre, à la CLC, ils ont des exemplaires et ils m'ont demandé d'être présent, de pouvoir raconter un peu notre histoire, témoignage, et puis passer une session de dédicace. Donc c'est jeudi prochain à 15h et je crois qu'il y a des petites fiches comme ça qui sont sur la table. Donc si vous voulez passer à CLC à Lille jeudi après-midi, eh bien c'est à 15h, ça me ferait très plaisir de vous accueillir là également. Voilà. Donc, mariage ou concubinage, Antoine, où est le vrai bonheur? C'est un sujet chaud dans la société française en ce moment, la question du mariage, n'est-ce pas? Je vais l'aborder un peu différemment. C'est quand même une question importante qui nous touche tous d'une façon ou d'une autre. Vivre en couple, il y a un choix à faire. Mariage ou concubinage? Le mariage, évidemment, est un vrai engagement et pas facilement rompu. Le concubinage est une situation de facilité qui n'a aucun caractère permanent. Vous avez vu la facilité avec laquelle le président récemment s'est débarrassé de la première dame de France. Impressionnant. Il a pris, bon, Valérie Trier-Villers, ceux qui ne suivent pas les actualités, il a pris le téléphone, il a appelé l'agence France Presse, il a demandé à parler à la directrice et lui a dit ceci, je cite, « Je fais savoir que j'ai mis fin à la vie commune que je partageais avec Valérie Trier-Villers. » Ils ont compté les mots, il y en avait 18. 18 mots et le coup d'un coup de fil pour terminer 6 années de vie commune. Et il est passé à la suivante qui s'appelle Julie. Alors, combien de temps ça va durer? Si ça continue. Parce qu'on ne sait pas. Tout d'un coup, ils ont baissé le rideau. On n'entend plus parler. Quelqu'un a dit, concernant cette situation qui était pire que Dallas il y a quelques semaines, qu'elle a été renvoyée avec une lettre de licenciement. Pourtant, la faute grave, c'est lui qui l'a fait. Le concubinage dit, aujourd'hui, c'est lui ou elle, mais demain, qui le sait? Le mariage dit, je crois à notre relation. C'est l'homme ou la femme de ma vie. Et il n'y aura pas d'autre.
village dit, si je vais voir ailleurs, ce n'est pas adultère, parce qu'on n'est pas marié. Le mariage dit, notre couple est sacré. Je répondrai à Dieu pour ma façon de le traiter. Le concubinage dit, je t'aime, mais pas tant que ça. Le mariage dit, mon amour pour toi tiendra pour le meilleur ou pour le pire. Le concubinage dit, on a trouvé le couple se garder après un mariage. Le mariage dit, quand je vois un couple de vieux se promener la main dans la main, ça me fait rêver. Le concubinage dit, il faut faire un essai pour voir si ça va marcher. Le mariage dit, nous nous sommes engagés l'un vis-à-vis de l'autre et nous allons réussir notre couple. Le concubinage dit, le monde a changé, une relation n'est pas faite pour durer, c'est comme un appareil électrique, on ne répare pas. Une fois que c'est cassé ou usé, on remplace avec un modèle plus récent. Le mariage dit, notre couple se renouvelle constamment. Le concubinage dit, c'est la cohabitation. On partage, mais chacun garde son autonomie. Le mariage dit, nous relevons le défi avec joie. Que deux deviennent un, c'est un partenariat. Le concubinage dit, je veux rester libre. Le mariage dit, je suis libre. Personne ne me prend, ne prend ma vie, je la donne. Le concubinage dit, le mariage n'est qu'une formalité, un bout de papier. Le mariage dit, notre couple, c'est un projet qui se construit comme une maison sur des fondations. Le concubinage dit, la société moderne m'a créé. Le mariage dit, Dieu m'a créé. Le concubinage dit, les enfants vont devoir s'adapter. Le mariage dit, les enfants ont un cadre sécurisant pour grandir. Alors lorsque nous assistons à des mariages à la mairie, il y a toujours quelque chose qui me frappe. C'est quand le maire lit les articles de la loi française. Ah, il y a des surprises dans la loi française. Article 212 de la loi française. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Donc, selon article 212 de la loi française, l'infidélité est contre la loi française. Ça fait beaucoup d'or la loi en France. Ça, c'est le mariage. Dans le concubinage, on n'en prend aucun engagement de fidélité, secours et assistance. Article 212. Article 213, tiens. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 213. Mais combien de fois la femme a été larguée avec son enfant par son compagnon, elle doit se débrouiller toute seule. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Mais la communauté de vie pour le concubinage tient par un fil. Il n'y a aucune obligation. Alors, quelle est la réponse de la Bible à la question du mariage? 1. une simple phrase résume tout, c'est tiré de Hébreux 13 qui nous dit ceci, que le mariage soit honoré de tous, tous c'est qui? Tous c'est qui? Ben c'est toi et c'est moi. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Il ne va pas par quatre chemins. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Que le mariage soit honoré de tous. Dans l'Ancien Testament de la Bible, il y avait le cas d'Abraham et Sarah. Abraham avait une épouse, elle s'appelait Sarah. Mais il avait aussi une concubine qui s'appelait Agar. Alors à l'époque, Dieu approuvait, il n'approuve plus. Maintenant, ça a changé. Au cas où vous vous faites des idées. Il avait deux femmes, une qui était son épouse et l'autre qui était sa concubine. Et Dieu a fait une promesse à Abraham qu'il aurait un fils. Qu'il aurait un fils que Dieu lui-même lui donnerait et que ce fils-là serait l'héritier, non seulement d'Abraham, mais qu'il porterait une promesse qui irait jusqu'à aujourd'hui. Mais cette promesse était liée à son épouse, pas à sa concubine. Alors Abraham s'est vu devant ce problème. Dieu dit, tu auras un fils et ce fils sera ton héritier et tu seras père d'une multitude à travers lui. Quand il regarde Sarah, il dit, elle est stérile, pas d'enfant. Comment on va faire? Je vais donner un petit coup de main à Dieu. Tiens. Alors il dit, bon, ben, on va caser la femme parce qu'elle est stérile. Et on a une deuxième possibilité, la concubine. Viens ici, Agar. Mon petit lapin. Elle a un enfant. Sauf que c'est pas l'enfant que Dieu voulait. Et quand Agar, la concubine, a eu son enfant, eh bien, ils l'ont appelé Ishmaël. Et Ishmaël est devenu le père des Ishmaélites, qui aujourd'hui sont les musulmans. Ça c'est Abraham qui voulait donner un coup de main à Dieu. C'est pas intelligent. Ça provoque des problèmes. Pourquoi? Parce que sa promesse, la promesse de Dieu, était liée à un homme et son épouse, et pas un homme et sa concubine. C'est la leçon forte qu'on doit tirer de ce qui s'est passé là, c'est que Dieu ne bénit pas la concubine, il bénit la femme. La promesse n'est pas pour une concubine, la promesse est pour la femme. Et aujourd'hui, quand on fait une bénédiction de mariage, on ne fait pas une bénédiction de concubinat. Tiens, voilà, on a décidé de se mettre ensemble, est-ce que vous pouvez nous bénir? Non. Le jour où vous voulez vous marier, là c'est autre chose. Alors, à quoi pourrais-je comparer la différence entre mariage et concubinage? J'imagine un jeune qui arrive à la fin de ses études et qui se retrouve en entretien avec un conseiller en carrière. Le conseiller dit, j'ai deux propositions à vous soumettre. Le premier s'appelle le RSA. Alors il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que le RSA, avec le RSA, tu ne devras pas travailler. Et tu n'auras jamais à payer des impôts. Bon, il y a quelques inconvénients. Tu vas devoir envoyer des CV et venir en entretien de temps en temps, mais on ne va pas trop vous embêter. C'est pas très bien payé, mais au moins c'est un revenu sûr. Première chose. L'autre chose que je pourrais vous proposer, ça s'appelle un CDI. Alors, l'inconvénient, c'est qu'il y a un patron. Il faudra se lever le matin. Le patron va vous dire ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Mais l'avantage, c'est que ça vous ouvre l'avenir. Et il y a des possibilités de promotion. Et là, vous êtes lancé. Lequel des deux vous prenez-vous ? En tant que jeune qui vient de terminer ses études, il n'y a pas photo. On veut un avenir. On veut un avenir. En Australie, Denise, elle travaillait dans une crèche. Et un jour, elle est arrivée à la crèche et il y avait plusieurs collègues, surtout des jeunes. Et elle leur a annoncé tout simplement que le jour même, elle fêtait ses 33 ans d'anniversaire de mariage. Les jeunes, ses collègues, quand elles ont appris ça, elles étaient sous le choc. Il y en a une qui a dit, 33 ans de mariage avec le même homme. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, les jeunes font 33 jours avec le même homme. Alors, il y a quelques semaines, nous avons fêté 35 ans. 35 ans d'avoir honoré nos voeux l'un envers l'autre. 35 ans où j'ai jamais dû poser la question avec qui partagerai-je ma vie ? Ça, cette question a été réglée. Oh bon, il y a d'autres questions qu'on doit encore régler, mais celle-là, ça c'est réglé, ça. Je ne dois plus me la poser. Parce qu'il y a 35 ans de cela, on a dit un jour, l'un à l'autre, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Elle n'est pas morte, moi je ne suis pas mort, on continue. Amen. Ah oui, c'est ce qu'on s'est dit. Récemment. On a célébré notre premier mariage à l'île de la Réunion. C'est un jeune couple qui s'est converti dans l'église l'année dernière, qui vivait ensemble depuis plusieurs années, qui ont fait 3 enfants déjà, et qui ont décidé de se marier. Quelle bonne idée! Et alors, quand on a fait le mariage, et j'ai dit que nous, on était sur le point de fêter 35 ans de mariage, alors j'ai dit, maintenant, faites le calcul. Vos 35 ans de mariage tomberont 2049. C'est loin. C'est loin. Mais là, on peut bénir ça. Ça, on peut bénir. Ça, Dieu peut bénir. Parce qu'il y en a un avenir. Jésus, lui, aime les mariés. Il aime les mariés. Il y a plusieurs choses qui me permettent de le dire. Son premier miracle, Jean chapitre 2, s'est fait lors des noces de Cana. Premier miracle. Il a choisi de faire son premier miracle dans un cadre de mariage. C'est quand même pas rien. Il voulait montrer qu'il approuve. Il voulait montrer qu'il appuie pleinement la notion de mariage. Et il ne voulait pas que la fête se termine. Et quand la fête commençait à faire ça, parce qu'il n'y avait plus de vin, il a dit, ramenez-moi les cruches. Vous allez voir ce que je vais faire. Il faut que ce mariage continue. Que cette fête soit belle pour ce mariage. On découvre aussi que le ciel sera un mariage. Quand même, mais étonnant que s'il y a une image qui va décrire que c'est le ciel, c'est un banquet de mariage. Alors les gens disent, qu'est-ce qu'on va faire au ciel ? Qu'est-ce qu'on va faire au ciel ? Eh bien, je ne peux pas vous répondre sur tous les points, mais je peux vous dire, on va bien manger, on va bien boire.
Amen.
Est-ce qu'il y en a qui aiment manger ? Il a voulu que le ciel soit les noces de l'agneau. Alors, il y en a un qui ne comprenait pas ça, il pensait que ça voulait dire qu'on allait manger de l'agneau. Tu viens à l'étude biblique, on va t'expliquer.
marié avec Marie-Madeleine, ils ont fait un enfant dans le sud de la France. Non.
Jésus n'est pas encore marié, il va se marier. Au ciel, c'est les noces.
Et ce sera avec son église, allez.
Et Jésus va utiliser le thème du mariage dans plusieurs de ses paraboles. Dont une qui se trouve dans Matthieu 25. Si vous avez une Bible, je vais vous demander de l'ouvrir. Apparemment, les paroles vont apparaître sur un écran. Matthieu 25, nous allons lire les versets 1 à 13.
Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Folles, pas dans le sens que on devrait les enfermer, non. Mais folles dans le sens qu'ils sont insensés.
Si vous voyez folles, qu'est-ce qui est marqué là?
Elles étaient folles. Bon, on va rayer ça. Voilà, on va mettre insensé, comme ça c'est mieux. Vous comprenez bien. 5 étaient insensés, 5 étaient sages. Les folles, les insensés, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria : voici l'époux ! Allez à sa rencontre ! Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages : donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent : non ! Il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! Mais il répondit : je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ici, Jésus raconte cette histoire juste dans le même chapitre où il parle de la fin du monde et le jugement final. C'est une histoire importante. Un mariage qui va déboucher pour certains sur un autre mariage au ciel. Mais ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que pas tout le monde va y rentrer. Alors les dix, il y en a cinq qui ont prévu et il y en a cinq qui n'ont pas prévu. Si moi j'étais Dieu, moi je dis, bon, allez, écoute, elles n'ont pas réfléchi, on les laisse rentrer. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Mais je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Et Dieu a dit, Jésus a dit, elles ne vont pas toutes rentrer. Et seules celles qui vont rentrer, ce sont celles qui ont une lampe, qui ont une lumière et qui peuvent s'assurer que cette lumière va continuer au-delà du temps qui était prévu. Les autres, eux, ils ont dit, bon, ben, il ne va pas trop tarder, ce sera bon. On ne va pas s'embêter avec une base de plus parce que c'est encombré. On n'a pas besoin de ça. Les mariages de l'époque, ne sont plus comme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on attend avec impatience la venue de la mariée. Et quand on fait signe, et puis elle est là, oh, tout le monde bouge, tout le monde. Ta, 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 ta. Et bien, tout le monde. Mais à l'époque, ce n'était pas ça. C'était que la mariée et tous les amis étaient déjà dans la salle, et maintenant, on attendait l'arrivée de l'époux. Il est là. Bon, 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 bon. Alors le problème, c'est qu'ils voulaient augmenter la notion de suspense quand est-ce qu'il arrive. Donc il ne leur disait pas à quelle heure il allait arriver, mais tout le monde devait attendre, qu'il le veuille ou bien pas. Il fallait attendre. Alors certains disent, il va venir vite. Et on mise tout sur ça. Et s'il vient vite, il n'y a pas de problème. Mais s'il nous fait attendre, alors ça va faire le tri. Parce que le temps a tendance de faire le tri chez les gens. Les gens qui commencent bien, oui, bien commencer, c'est une chose, bien terminer, c'est une autre. Dire d'être là avec sa lampe qui brille au début, ça c'est bien. Mais ce qui est mieux, c'est quand le marié, l'époux arrive et ta lampe brille toujours. Ah, c'est mieux ça. Et aujourd'hui, quand Jésus raconte cette histoire des vierges, des censées, des pas censées, les saints qui vont rentrer, les saints qui vont être exclus, il parle d'une question de lumière. C'est une question de lumière, c'est une question d'huile. Il y en a qui l'avaient, il y en a qui ne l'avaient pas, ou qui n'avaient plus. La lumière, c'est la lumière qui éclaire les hommes. La lumière qui brille dans une vie, et qui après maintenant brille d'une vie vers les autres. Ça, c'est la lumière. Paul en parle dans 2 Corinthiens 4. Cette lumière, Dieu a fait briller la lumière dans leur cœur, la connaissance de Christ. Est-ce que vous avez ça dans votre vie? La connaissance de Christ, la lumière de se connaître Jésus. Est-ce que vous avez ça? Parce que si on ne l'entretient pas, vous savez ce qui va se passer de cette lumière épaisse. Vous ne l'entretenez pas. Et on l'entretient avec de l'huile, le Saint-Esprit, l'huile, c'est une image d'une vie spirituelle, c'est une image d'une communion avec l'Esprit de Dieu, une communion qui fait que tu es plus spirituel que matériel. C'est que tu as les pieds sur terre, mais le cœur est au ciel. C'est que tu ne vis pas pour les choses que tu as, les trucs que tu as, tu ne vis pas pour ça. Tu les as, mais ils sont secondaires. Pour toi, c'est cette dimension, cette relation avec Dieu, c'est ce Saint-Esprit qui vient et qui remplit ta lampe, afin que ta lampe ne baisse pas et ne s'éteigne pas. Et ceux qui ont entretenu la lampe, ceux qui ont l'huile, ceux qui ont cette lumière qui continue à agir en eux et agir depuis leur vie, c'est eux qui rentrent. Et les autres ne rentrent pas. C'est pas mon histoire. Ne vous fâchez pas avec moi. Si vous n'êtes pas content, allez voir Jésus. C'est lui qui l'a raconté. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est s'il a raconté cette histoire juste avant de parler de la fin du monde et du jugement final, il faudrait quand même qu'on prenne ça au sérieux. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en a qui ne parlent. Ça, c'est bien. Il y en a qui ne vont pas. Et moi, je vais faire mon possible ce matin pour que vous n'en fassiez pas partie. Vous êtes là? Ne quittez pas. Je vais faire tout mon possible que vous vous fassiez partie des cinq sages plutôt que de faire partie des cinq folles. Parce que ce n'est pas possible pour moi d'accepter que ceux qui m'écoutent puissent faire partie de ceux qui m'entendent. Pas possible. Finalement, le choix, ça
C'est bon. Je ne peux pas le faire pour vous. Mais si je pouvais le faire pour vous, je le ferais. Si je pouvais entrer dans votre peau et devenir Jésus, je suis avec les sages, pour parler avec les forces. Jésus, je vais faire de ma vie spirituelle la priorité. Je veux que ta lumière brille, que Dieu fasse briller sa lumière, la connaissance de Christ dans mon cœur, afin qu'elle brille à travers ma vie vers les autres, et que je vais entretenir tout au long de ma vie, jusqu'au jour de mon cercueil. Je veux entretenir ce Saint-Esprit en moi qui va faire que la lumière continuera à briller et que le jour où le monde arrive à sa fin, eh bien Jésus reviendra et il va dire voilà, tu peux rentrer. Oh, tu vas peut-être dire oui, mais écoute, ça fait 2000 ans qu'on attend. Il y a peut-être encore 2000 ans à attendre. Si tu écoutes les scientifiques, eux, ils pensent pas qu'on aura encore 2000 ans. Mais la pauvre planète, elle commence à sentir, à montrer des signes de fatigue. Je pense que vous l'avez remarqué. Ah, mais il n'y a pas une semaine qui passe sans un tremblement de terre majeur quelque part. Si vous regardez le taux et la l'intensité des tremblements de terre depuis les années 70, ça fait ça. Exponentiel. Moi, je ne crois pas qu'il faudra attendre encore 2000 ans. Mais s'il faut attendre encore 2000 ans, bien, moi, je viendrai avec un vase, donc deux vases d'huile. Parce que moi, je veux rentrer. Moi, je ne sais pas si vous êtes, vous voulez comme moi, mais moi, je veux rentrer, moi. Moi, je veux rentrer. Quand l'époux arrive, et moi, je lui dis, ben, tu rentres. Non, merci. J'ai tout fait pour. Ce serait tellement bête d'avoir fait beaucoup, et puis à la fin, ah non, tu rentres pas. Ben, si, tu sais, tu me connais. Tu me connais, je m'appelle Vincent. Oui, j'ai prêché, enfin. J'ai un ami, Antoine Nocé. Seigneur, tu laisses rentrer. Un amour de talent. Il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas de lumière qui dégageait de toi. Tu ne rentres pas. C'est insupportable, ça. C'est insupportable. Et Jésus a se servi du mariage pour nous aider à comprendre qui entrera et qui n'entrera pas. Il y a quelques semaines, j'ai retrouvé un couple à Paris dont j'avais fait le mariage à 18 ans. Moi, j'en ai collectionné les mariages. Si au premier rang, je les ai faits, il y a 25 ans 15 ans, vous savez même plus. Elle avait un superbe chapeau grand comme ça. Yoshini et David. Eh bien, il y a quelques semaines, j'ai rencontré un couple qui s'appelait Philippe et Estelle. J'ai fait leur mariage à 18 ans. Oui, des copains. Et quand j'ai fait leur connaissance, eh bien, ils vivaient en concubinage. Ils n'étaient pas les seuls. Ils habitaient dans la banlieue sud de Paris et Philippe travaillait pour son père, il était maçon et son père avait l'entreprise. Et un de leurs clients était un couple dans notre église à Évry. Et pendant qu'ils faisaient les travaux de rénovation, ça durait plusieurs semaines, Philippe laissait traîner ses oreilles. Il écoutait les conversations, il observait ce couple vivre leur vie chez eux. Semaine après semaine, il les entendait parler de leur foi, de Jésus. Et lui, ça le faisait quelque chose. Ça lui donnait envie, vous savez. Ça lui donnait envie. Ça, c'est bon signe, ça. Quand ça te donne envie. Il a commencé à avoir une soif de connaître Dieu. Et chaque jour, et bien pendant les pauses, il leur posait des questions. Et il témoignait, il répondait.
Et finalement, eh bien, le couple a invité Philippe à venir à leur premier culte du dimanche matin à Évry. Il était là, tout était nouveau pour lui, il n'avait pas de point de repère, il découvrait un monde qu'il ne connaissait pas du tout parce que sa famille était athée, très athée même. Et alors, je me souviens de cette réunion, je me rappelle même là où il était assis. Et à la fin de la réunion, j'ai demandé à ceux qui n'avaient pas encore donné leur vie à Jésus de lever la main et finalement de s'avancer. Et ce jour-là, Philippe n'a pas hésité. Il a tout de suite levé la main, il s'est avancé, il a donné sa vie à Jésus. La semaine suivante, il est arrivé avec sa concubine, Estelle. Et là, le premier jour pour Estelle, elle aussi a donné sa vie à Jésus. Dans la semaine qui a suivi, eh bien, Philippe et Estelle sont venus me voir. Et ils m'ont dit, Vincent, nous, on veut être sérieux avec le Seigneur. Et donc, on a pris la décision de maintenant de ne plus vivre ensemble, mais maintenant de commencer un projet de mariage afin de pouvoir construire sur la volonté de Dieu pour notre vie. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit ben, bravo les jeunes. Hein, parce que moi je ne leur avais pas demandé ça. C'est eux qui sont arrivés à cette conviction personnellement. Quelques mois plus tard, j'ai célébré leur mariage. C'est le mariage le plus houleux que j'ai jamais fait. Houleux. Ils m'avaient demandé s'ils pouvaient donner leur témoignage lors du mariage. J'ai dit, super, on y va. Ils avaient leur famille et surtout leurs amis. Et tous leurs amis étaient au fond de la salle. Et Philippe et Estelle se sont levés et ils ont raconté leur témoignage de comment ils ont donné leur vie à Jésus, de comment ils ont voulu faire la volonté de Dieu, comment ils se sont séparés, comment maintenant eh bien, ils s'unissent dans le lien du mariage afin de pouvoir avoir la bénédiction de Dieu sur leur couple. Pendant qu'ils témoignaient, il y avait un brouhaha dans la salle, au fond de la salle, où il y avait des moqueries de leurs propres amis. Des amis comme ça, pas forcément. Ils rigolaient, ils se permettaient des réflexions, des remarques. Ça chahutait au fond de l'église. Mais Philippe et Estelle n'ont pas tremblé et ont continué avec leur témoignage. Les années ont passé. Aujourd'hui, Philippe et Estelle ont quatre enfants magnifiques. Philippe est devenu un des responsables, un ancien dans l'église où il a donné sa vie à Jésus. Quel parcours. Et quand j'ai vu Estelle, il y a quelques semaines, elle m'a soufflé. Vincent, tu te souviens de tous nos amis qui nous ont chahutés le jour de notre mariage? Eh bien, aujourd'hui, ils sont tous séparés. Et tous sont dans des situations compliquées. Que le mariage soit honoré de tous, dit la Bible. Et quelques versets plus tard, il est dit ceci. Jamais je ne vous délaisserai. Jamais je vous abandonnerai. Alors aujourd'hui, vous voulez que Dieu vous fasse cette promesse. Jamais je vous abandonnerai. Jamais je vous délaisserai. Eh bien, cette promesse est donnée à ceux qui vivent leur vie selon sa volonté.
Amen.
Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie qui fait qu'elle brille en nous, à travers nous, et qui fait que le jour où le cri monte, voilà les coups, la porte va s'ouvrir, tu rentres. Tu rentres. Tu rentres. Et je
regret. Quand je suis rentré aux noces, ce serait de penser à ceux que j'ai connus. Ils ne sont pas rentrés. Aujourd'hui, j'invite tous ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. J'invite tous ceux qui, pour l'instant, cette lumière de la connaissance de Christ n'a pas brillé dans son cœur. Aujourd'hui, celui qui se tient à peut-être en observateur, peut-être en disant « Oui, je suis en réflexion. Je ne veux pas me précipiter. J'ai ma façon de croire. J'ai ma façon de voir les choses. » D'accord. Mais tout ce que j'espère, c'est que tu n'es pas dans cette situation-là lorsque le cri arrive « Voici l'époux !» Aujourd'hui, j'espère que tu vas saisir cette chance, saisir cette occasion de dire, moi je change de camp. Je change de camp. J'étais ici. Et ma lampe, ma lumière, baissée. J'avais pas de l'huile pour qu'elle remonte. Je suis là. Aujourd'hui, tu peux changer de camp et tu peux être ici et être un homme, une femme spirituelle. Un homme, une femme spirituelle, ça ne veut pas dire quelqu'un qui n'a rien dans la tête, quelqu'un qui est paumé, qui a perdu sa vie. Non, ça veut dire que avec tout ce que tu as, avec ta voiture et ton titre de travail et tout ce que tu as, tu es avant tout un homme, une femme spirituelle, ouais. Un homme, une femme qui vit avec Dieu.
Alléluia.
Et quand tu as ça, mon ami, eh bien, ta lampe ne va pas baisser. Et quand la porte s'ouvre, tu entres. Bon, ce matin, c'est pas pour vous marier. Ce matin, c'était pour aborder la question. Mais ce matin, c'est surtout pour vous donner l'occasion de choisir si vous allez faire partie de ceux et celles qui sont prêts. Et pour ça, ça demande une décision. Ou bien que vous retrouvez dans ce groupe insensé, ce groupe qui ne comprend même pas la folie. Aujourd'hui, le but de ce matin, c'est vous donner l'occasion de faire un choix, de prendre position pour ta vie. Décidez d'ouvrir votre cœur et devenir un homme, une femme, attaché à Jésus. Un homme, une femme, un jeune qui maintenant est spirituel avant quoi que ce soit. Un jeune, un homme, une femme qui, dans lequel la lumière de Christ brille. On est à tout le monde juste de fermer les yeux. On peut fermer les yeux. C'est un rendez-vous que Dieu t'a fixé. En étant là, dans la réunion, tu as senti qu'il y a quelque chose qui bouge intérieurement en toi. Tu ne comprends pas tout, mais tu sais que tu ne peux pas rester là où tu étais. Tu sais que si tu ne bouges pas, si tu ne fais rien, tu ne t'approcheras pas de Dieu et Dieu ne pourra pas s'approcher de toi. Ce matin, j'aimerais parler à ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Et j'imagine qu'il y en a plusieurs ici ce matin. Je ne vous demande pas si vous avez été né dans une famille catholique, protestante,
musulman, juif, je vous demande pas votre CV familial ou votre livre de famille religieux. Vous avez votre parcours à vous. Vous êtes un individu. Vous faites vos choix en fonction de ce qui se passe dans votre vie, dans ta vie. Et aujourd'hui, la vie t'a conduit jusqu'ici. Quand tu aurais pu rester au lit, quand tu aurais pu faire d'autres choses, aller au marché, aller à la mer, tu as choisi de venir ici. Tu es venu seul ou bien tu es venu avec un ami. Tu es venu. Et aujourd'hui, il y a encore un pas à faire. Tu as fait le premier pas de franchir le pas de la porte, mais il y a encore un pas à faire. Et celui-ci, c'est avec le cœur. Celui-ci, c'est pas seulement avec les pieds, mais avec le cœur. C'est de dire, Jésus, oui, viens dans ma vie. Jésus, je veux faire partie de toi. Je veux être de ceux qui ont la lumière dans la lampe. Pas une lampe éteinte, froide. Je veux que dans ma lampe, il y ait de la lumière, qu'il y ait du feu, qu'il y ait de l'huile. Jésus, je veux te connaître, vivre ma vie pour toi. Ce matin, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, bien si tu es très loin, tu l'avais peut-être fait il y a des années et tu as laissé tomber. Et tu as besoin ce matin de revenir et de revenir, mais vraiment de tout ton cœur. Ou si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, mais tu voudrais le faire ce matin, ici. Tu voudrais que je prie avec toi pour ça. Je vais te demander de faire un geste qui n'est pas difficile à faire. Là, à ta place, de lever la main. Et en levant la main, tu dis, Vincent, prie pour moi. Je veux connaître Jésus. Qui sont ceux qui ce matin vont dire oui? C'est ce que je veux vivre moi. Pour ma vie, lève la main, oui. Cette femme sur ma droite qui lève la main, lève-la bien haut pour que je puisse la voir. Oui. Une autre jeune femme ici devant moi. Une fois que je vois vos mains, vous pouvez les laisser. Une dame sur ma gauche, Antoinette, une dame. Merci, tu peux laisser ta main. Qui d'autre vont faire ce pas, une autre dame devant moi. Et messieurs, et vous, messieurs. Est-ce qu'on est devenu trop macho pour Dieu maintenant? Est-ce qu'on est devenu trop homme pour ouvrir son cœur et répondre spontanément et répondre sincèrement? Messieurs, ici pour que je puisse prier avec vous.
C'est plus simple que ça que de promener dans toute la salle. Donc, cette jeune femme-ci peut dire, Julien, viens, prenez ta viens. Il y avait une autre personne qui est bien. Pour que Vincent puisse prier pour toi. Et si c'est le cas,